La ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle, et il n'y avait point de maison bâtie. Dans notre chapitre, au verset 22, Néhémie demande au peuple que chacun avec son serviteur passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit une garde et que de jour il fasse le travail. S'il demande cela, ça veut dire que jusque-là, il ne passait pas la nuit dans Jérusalem. Si on revient au chapitre 3, dans tous ceux qui bâtissaient, on voit qu'il y en a à plusieurs reprises. Par exemple, au verset 13, Hanun et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et posèrent ses bâtons et ses verrous et ses barres et firent 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. C'étaient les habitants de Zanoac qui n'habitaient pas à Jérusalem. Et au verset 15, nous lisons. Non, je vais d'abord relire au verset 11. Ils ne le sauront pas, ne le verront pas, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons. L'ennemi voulait avoir la surprise. Le verset 15 nous dit que nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait dissipé leurs conseils. Et alors on a ces juifs qui habitaient près d'eux. Ces juifs qui habitaient près d'eux, c'est toutes sortes de personnes. C'était peut-être, par exemple, Hanun et les habitants de Zanoac. C'était peut-être des juifs aussi qui travaillaient de jour au chantier et qui, quand ils rentraient chez eux, entendaient des bruits, voyaient peut-être des regards moqueurs, on vous aura bien. Il nous faut peut-être un peu nuancer ce que nous disons sur son verset 12. L'important, c'est surtout ce verset 15. Nous étions informés et Dieu avait dissipé leurs conseils. Dieu avait dissipé leurs conseils. Tout ce que l'ennemi peut tramer par derrière, en secret, est vu de Dieu. Et Dieu garde et Dieu ne permet pas que les choses se passent comme l'ennemi voulait le faire. Et alors, ce qui est beau aussi dans ce verset 15, je relis le début, « Et quand nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait dissipé leurs conseils, il arriva qu'ils inventèrent une nouvelle ruse. » Non, il n'est plus question des ennemis. Il n'est plus question des ennemis. Les ennemis ont appris, et puis la suite c'est « nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. » Qu'est-ce que c'est merveilleux, comment Dieu déjoue le plan, ne permet pas que cette ruse faite en secret puisse réussir. Et au fond, c'est un encouragement. C'est un encouragement qui redonne de l'énergie, du courage, de la force, de la dépendance pour retourner au travail. Chacun a son travail, chacun a sa place. Il est certain que la mobilisation que Néhémie a établie, a fait au verset 13, par famille, donc ça reste des personnes qui travaillaient ensemble, qu'on voit au chapitre 3, mais ça amène à un petit peu accaparer les pensées sur la surveillance, sur la défense, sur être prêt, et ça détourne du chantier. Mais là maintenant, Dieu avait dissipé leurs conseils. Dieu avait dissipé leurs conseils et le travail peut reprendre, chacun à sa place. C'est un encouragement aussi pour nous, pour ne pas nous, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, ne pas nous laisser effrayer, et cette confiance que le moment venu, Dieu déjoue les pièges de l'ennemi. Et Dieu encourage et permet que le travail puisse continuer.
Je voulais revenir sur ce qui a été dit à propos des vases à honneur. Alors on peut lire dans le psaume 51, c'est une prière de David après son péché. Et à la fin de ce psaume, il peut dire, au verset 17, « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Fais du bien dans ta faveur, à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice et à l'Holocauste et au sacrifice qu'on brûle tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et donc on voit que les vases à honneur, ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui ne méprisent pas, ce sont exactement l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Ce sont ceux qui ont le cœur brisé et humilié. On a parlé de la chair tout à l'heure. Eh bien, la première des choses, pour être un vase à honneur, c'est bien de reconnaître devant Dieu sa position, c'est-à-dire ce que dit David au verset 4, « contre toi seul, j'ai péché. » Dieu n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est quand on est dans cet état-là que l'on reconnaît, on a parlé de communion avec Dieu aussi. La communion avec Dieu, c'est bien sûr la communion, celle qui est positive, qui nous paraît positive, la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire être en communion avec le Père sur ce qu'il pense de son Fils et avec le Fils sur ce qu'il fait pour son Père. Mais c'est surtout, c'est aussi être en communion avec ce que et le Père et le Fils disent de l'homme. Et donc, les vases à honneur, eh bien, c'est ceux que Dieu ne méprise pas, c'est ceux qui sont brisés et humiliés. Et d'ailleurs, dans le chapitre 8 de Néhémie, à la conclusion, le peuple, après, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais le peuple, après avoir fini de construire la muraille, ils écoutent la parole de Dieu. Et au verset 9 à la fin, on voit tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils étaient convaincus de péché. Et que leur est-il dit à la fin du verset 10? Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et pourquoi l'Éternel était joyeux? Eh bien, parce que Dieu avait rassemblé des pécheurs à la repentance et qu'il désirait faire sa volonté. Voilà quels sont les vases à honneur.
Faire face à ces assauts de l'ennemi, à ces attaques, on a vu différentes attitudes à imiter, à rechercher. On pourrait les mentionner encore une fois sous la forme de verbes. Il y a prier. On a vu l'importance de prier, de veiller avec la garde au verset 9. Prier, veiller. On peut dire aussi qu'il y a verset 13, être placé. Et avec cette question, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à la place que le Seigneur m'a donnée? C'est un vaste sujet, mais important. Et c'est un sujet de réflexion par ailleurs, mais est-ce que je suis à la place où le Seigneur m'a mise? On a l'aspect de s'armer, être armé, s'armer. On voit que Néhémie donne des instructions en rapport avec les armes qu'il fallait prendre. Donc aussi une question d'ordre spirituel. Est-ce que j'ai pris les armes, non pas évidemment les armes charnelles comme dit Paul, mais les armes spirituelles? Les armes de notre guerre sont spirituelles, dit Paul en 2 Corinthiens, chapitre 10 peut-être. Est-ce que j'ai revêtu ces armes spirituelles? Il y a le verbe qu'on a souligné au verset 14, se souvenir du Seigneur. Et Didier a cité tout à l'heure 2 Timothée 2, verset 8, qui est un magnifique verset. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon mon évangile. C'est un verset qui est extrêmement riche, et au milieu de cette deuxième épître à Timothée, qui nous montre quelque chose d'extrêmement précieux et important, mais ce n'est pas le sujet à développer maintenant, mais ce verbe, se souvenir. Et donc voilà les verbes qui montrent ce à quoi on est appelé. Et on voit dans le paragraphe suivant, versets 15 à 18 et même jusqu'à la fin, qu'il y a cette double attitude, ou ces deux attitudes simultanées que les Juifs sont appelés à avoir. C'est l'attitude de ceux qui sont prêts à combattre tout en travaillant. Ils travaillent, chacun à son travail, ils ont les instruments pour travailler, pour bâtir, et en même temps, ils ont les armes pour se défendre. Et donc cette double attitude, elle est importante pour nous au sens spirituel, combattre et bâtir. Et bien sûr, ça fait écho à des passages dans le Nouveau Testament, par exemple, et c'est peut-être un contexte un peu différent, mais dans l'Épître aux Philippiens, Paul parle de l'avancement de l'Évangile et il parle de la défense de l'Évangile. Peut-être faire un parallèle à replacer dans son contexte, mais voir qu'il y a une attitude positive, bâtir, l'avancement, ou une attitude plus défensive, la défense de l'Évangile ou combattre. Et on a bien sûr l'apôtre Jude qui, dans son épître, commence par exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints, Jude verset 3. Et à la fin de l'épître de Jude, on a l'exhortation « Édifiez-vous l'un l'autre sur votre très sainte foi ». Donc, cette double attitude importante, édifier, bâtir, et on comprend ce que cela veut dire pour nous au sens spirituel, c'est enseigner, mais ce n'est pas que enseigner, c'est encourager, c'est stimuler dans un sens positif pour qu'il y ait une croissance, que l'on grandisse dans les pensées de Dieu, dans la connaissance du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, et en même temps combattre, être prêt à combattre. Ils avaient les armes sur eux au cas où l'ennemi agirait. Et donc, est-ce que nous, dans le temps présent, nous sommes appelés à avoir cette double attitude ? Les choses positives, édifiantes, constructives, oui, toujours les rechercher, mais en même temps être toujours vigilant. Il y a des choses à défendre, il y a des choses à garder, il y a des combats, et nous ne devons pas sacrifier l'un pour l'autre. Et c'est important de rechercher ces deux choses. Peut-être que dans le dernier paragraphe de notre chapitre, il y a des, on verra peut-être plus tard, mais des circonstances spéciales où il fallait arrêter le travail pour un moment, pour se regrouper auprès de celui qui avait sonné de la trompette pour être en position de défense. Peut-être qu'il y a donc des circonstances où le travail devrait être arrêté momentanément en vue d'une défense. Mais généralement, recherchons cette double attitude de ceux qui édifient, de ceux qui bâtissent et de ceux qui sont prêts à défendre, à combattre.
Insister sur ces deux petits mots que nous avons au verset 15, nous retournâmes tous à la muraille et chacun à son travail. Il y a le tous, puis il y a chacun. Si on ramène ça au rassemblement, il y a tous, nous sommes impliqués dans le rassemblement, dans l'œuvre de Dieu, dans le témoignage que nous sommes appelés à rendre collectivement. Il n'y a pas les actifs et les passifs, ça n'existe pas. Dans le service du Seigneur, il n'y a pas les frères à l'œuvre et les désœuvrés, ça n'existe pas non plus. Nous sommes tous. Tout le monde est retourné à la muraille. Et quelle bénédiction dans le rassemblement quand on sent que non seulement les frères, mais toutes les sœurs sont là, engagées dans le rassemblement, non pas avec ceux qui disent « ça c'est l'affaire des frères » simplement, ou ceux qui disent « moi j'ai perçu le don », qui paraît très modeste, qui a juste un inconvénient, c'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Chacun a reçu. Alors tous, et en même temps chacun, nous ne sommes pas appelés à occuper la place de l'autre. Chacun avait son travail. Alors nous travaillons tous à la même œuvre, mais Et ça nous ramène où? Ça nous ramène dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, l'unité, tous, et la diversité, il y a des dons différents. Pour qu'un organisme, et j'emprunte cette image aussi à la première aux Corinthiens, pour qu'un organisme humain fonctionne bien, il faut que chaque organe remplisse sa fonction. Si vous avez un problème de foie, vous risquez, tout le corps va en pâtir. Si vous avez un problème d'estomac, tout le corps va en pâtir. Si vous avez un organe qui ne fait plus sa fonction, peut-être vous prendrez des remèdes, mais tout le corps va en pâtir. Dans l'assemblée, c'est exactement la même chose. Si je ne remplis pas la fonction, la place, Eric en a dit un mot tout à l'heure, que le Seigneur me demande d'occuper dans le rassemblement, avec ce qu'il m'a confié, et pouvant compter sur les ressources qu'il me donnera pour remplir ce qu'il m'a confié, si je ne fais pas ça, c'est comme un organisme où il y a un organe qui ne fonctionne pas. Si chacun sied à sa place, il y aura une bénédiction. Il y a aussi, je voulais juste dire un mot aussi sur le verset 17, il faisait le travail d'une main et de l'autre il tenait une arme. Ce n'est pas une main pour le Seigneur et une main pour le monde. C'est tout pour le Seigneur. Dans 1 Chronique 12, vous avez des hommes de David qui utilisaient la main droite et la main gauche. Ça nous est dit, il y a certainement un enseignement moral pour nous, le verset 2, il est question, en plus c'était des gens qui étaient de la même tribu que Saül, se servant de la main droite et de la main gauche. Et on pense à ce que, je crois que c'est la deuxième épître à Timothée qui nous dit ça, qui nous dit, sois-y tout entier, sois-y tout entier, mets les mains, deux mains dedans. Et nous sommes invités, en effet, comme ça nous a été dit déjà, psaume, quand il nous est dit, si je ne mets Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Quelle est notre échelle de valeur? Travail en premier? Famille en premier? Mettre Jérusalem au-dessus de la première de nos joies. Parce que les intérêts du Seigneur, nous les avons à cœur. Et si nous les avons à cœur, si nous aimons le Seigneur, il n'est pas possible que nous n'aimions pas aussi ce qui est de lui. Et il n'est pas possible que nous n'aimions pas ce qu'il a établi lui-même sur la terre.
Nous venons de l'entendre, tous à la muraille, chacun à son travail. Il est bien dit, chacun à son travail. Alors vous tous ici, qui appartenez au Seigneur, vous avez un travail dans l'assemblée. Tous, du plus jeune au plus âgé, frères, sœurs, vous avez un travail. Le Seigneur a préparé un travail pour vous. Vous avez reçu des dons, des services. Alors la question est celle-ci. Quel est ce travail? Quel est le service que Dieu me donne? Alors Dieu utilise souvent nos compétences naturelles. Mais comme nous l'avons dit, d'abord, ce qui doit m'animer, c'est l'amour du Seigneur. C'est d'abord que mon cœur soit rempli de l'amour du Seigneur pour qu'ensuite cet amour retourne vers le Seigneur et vers les frères et sœurs, vers l'assemblée. Alors, il y a une chose, donc chacun a son travail qui est différent. Mais nous avons tous un travail qui est le même, c'est la prière. Et même un frère, une sœur couché qui ne peut plus rien faire d'autre, il peut prier. Et combien ces prières sont importantes. Et peut-être que nous l'oublions. Lorsqu'un frère parle dans l'assemblée,
Est-ce que vous qui entendez, est-ce que vous êtes là pour prier pour ce frère? Pour que ce soit par le Saint-Esprit qu'il parle. Alors, nous avons lu les porteurs de fardeaux faiblissent. Bon, ici, c'était peut-être une excuse, mais il y a le cas, il y a des frères, ils portent beaucoup de fardeaux. On vient chez eux pour leur raconter les problèmes de couple, de famille, d'autres assemblées. Ils ont ces fardeaux et ils peuvent faiblir. Est-ce que nous prions pour eux? Que ce soit au niveau de l'assemblée locale ou des frères qui ont un rôle plus important pour d'autres assemblées, combien ces prières sont, elles ne sont pas importantes, elles sont primordiales. Lorsqu'un frère parle lors d'un enterrement pour présenter le message, tous qui sommes là, nous devrions prier pour que Dieu dirige ce frère et pour que Dieu ouvre des cœurs pour que ce message puisse pénétrer dans ses cœurs. Et cela, nous pouvons le faire déjà plus jeune. Et puis, il y a des services, nous le savons, il y a celui qui s'occupe de la conciergerie, qui s'occupe du local, il y a ceux qui ont une tâche plus particulière dans l'hospitalisation. Pour un jeune enfant qui aime le Seigneur, mais il peut rendre des services à des personnes plus âgées. Samuel a commencé, ben, il ouvrait les portes. Mais c'était important de commencer par là. Et faisons-le avec le cœur. Aimons la personne pour qui nous le faisons. Et déjà, si nous aimons cette personne, nous ne la critiquerons pas, même s'il y a des aspects qui ne sont pas toujours, toujours faciles. Mais nous avons tous, je le répète, tous et chacun, nous avons un rôle dans l'assemblée. Demandons au Seigneur qui nous le montre. Et surtout, prions, prions. Combien cela est important, la prière pour l'assemblée, la prière pour l'évangile. L'apôtre Paul lui-même demandait les prières pour lui, pour que l'évangile soit annoncé. Et l'apôtre Paul priait pour ceux qui travaillaient avec lui. Et il évoque des sœurs aussi. On voit donc toute l'importance que nous ayons à cœur. D'abord l'assemblée. Cela a été dit, nous vivons pour l'assemblée, pas par l'assemblée. Et si nous avons le cœur, un cœur rempli de l'amour du Seigneur, eh bien il nous montrera aussi là où il y a des besoins. Peut-être tout simplement un coup de fil à une personne qu'on n'a plus vue, ou une personne qu'on sait être fatiguée ou qui est dans le deuil. Un petit coup de fil, un petit SMS, un petit message. Combien c'est facile et combien parfois cela fait un bien énorme. Une visite, on prend déjà moins de temps, mais visitons les frères et sœurs âgés. Il y en a qui ne peuvent plus aller au rassemblement, c'est une grande douleur pour eux. Eh bien, allons les voir avec le Seigneur. Et le Seigneur montrera à chacun, si son cœur est engagé, s'il désire faire quelque chose, il montrera ce que nous pourrons faire dans l'assemblée. Et faire quelque chose pour l'assemblée, c'est aussi une manière de résister contre l'ennemi. Parce que nous l'avons rappelé, l'ennemi il est là de tous les côtés et il est même là en nous. Que nous soyons chacun plus occupés des intérêts du Seigneur, et c'est-à-dire aussi donc des intérêts de l'assemblée et des frères et sœurs.
Il y a aussi le passage pas cité dans la deuxième au Corinthien, qui montre bien l'engagement que le Seigneur désire que nous ayons pour lui par les armes de la main droite et les armes de la main gauche, c'est-à-dire totale implication dans le service pour le Seigneur. On trouve ça au deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6 peut-être. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est Néhémie est là, et puis celui qui sonnait de la trompette à côté de lui. La trompette dans la parole, en général, nous parle de la parole de Dieu, d'argent battu, nombre 10. On l'a sonné pour 4 occasions. On l'a sonné, si on prend le passage de nombre 10, on l'a sonné d'abord pour rassembler le peuple, et nous avons à nous rassembler pas selon nos idées, mais au son de la trompette, au son de la parole de Dieu, en nous soumettant à ce que la parole de Dieu enseigne. Deuxième occasion, où la trompette, il y en avait deux d'ailleurs, là, il me semble qu'il n'y en ait qu'une, mais deux trompettes nous montrent bien un témoignage complet, et la parole de Dieu est un témoignage complet. La deuxième occasion, on sonnait de la trompette dans Nombre 10, c'est pour le départ des camps. Quand nous avons à avancer, quand nous avons à prendre une décision, quand un jeune, par exemple, décision à prendre, travail, mariage, est-ce que c'est au son de la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui est d'argent battu? L'argent nous parle de rédemption. Est-ce que mon sauveur et ce qu'il m'enseigne dans la parole est prioritaire dans cette décision où je vais avancer quelque part? Et puis vous aviez aussi, et c'est peut-être ça aussi, celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi, eh bien pour les départs à la guerre. Pour partir à la guerre, il fallait le faire selon la parole de Dieu. Vous sonnerez des trompettes avec éclat, vous serez rappelé en mémoire devant l'Éternel. Dans nos combats, nous n'avons pas à combattre n'importe comment, non pas avoir du zèle, pas selon la connaissance, mais les combats que nous avons à mener doivent être faits avec la parole de Dieu. Et puis, il y avait une quatrième occasion, c'est dans vos jours solennels. Les jours solennels, ce n'était pas à l'invention des hommes, c'était ce que la parole de Dieu, la trompette, prescrivait. Les jours solennels de l'Éternel, et nous avons aussi à être soumis à la parole pour cela, jours solennels, quand nous nous rassemblons, que la parole de Dieu soit en honneur. Alors cette proximité de celui qui sonnait de la trompette, et là pour nous enseigner, peut-être que c'était pour sonner le rappel, si les ennemis venaient peut-être, mais dans ces quatre occasions, et c'est très intéressant de l'étudier dans Nombre 10, de voir combien la parole de Dieu devrait être dans toutes les circonstances de la vie d'assemblée, dans nos circonstances personnelles, doit être ce qui nous conduit, ce qui nous fait obéir.
Encore un mot sur ces versets 16 suivants. On voit premièrement dans le verset 16 que Néhémie fait une distinction entre deux groupes. La moitié était appelée à travailler, l'autre moitié était appelée à tenir les armes. Et je crois que c'est vrai, ce n'est pas chacun de nous qui a en même temps les deux exercices, les deux travail pour ainsi dire. Il y a ceux qui sont vraiment doués pour bâtir, pour encourager, pour instruire, pour donner la doctrine de la vérité, aussi pour encourager personnellement de grandir dans ces vérités et dans ces différents aspects de la vérité. Et il y a d'autres qui voient plus les dangers qui viennent de ses ennemis. On n'a pas souligné trop, mais il y a dans le verset 13, il y a les épées et les piques et les arcs. L'épée, c'est plutôt pour l'ennemi qui est proche, et les deux autres pour l'ennemi qui est encore, qu'on peut voir de loin déjà. Et il y a les dangers qui existent, qui ne sont pas directement vus par nous, mais il y a ceux qui voient ces dangers. Et quelle grâce que Dieu peut utiliser ses frères et sœurs pour nous faire remarquer, pour nous avertir, pour nous aider aussi à défendre ces attaques que nous, peut-être, ne sommes pas vraiment à distinguer. Ce n'est pas non plus le travail de chacun de nous de se concentrer sur tous les dangers qui existent. Certainement, nous, comme parents, il faut donner des réponses à nos enfants qui la vérité est attaquée. Si quelques aspects de la parole sont attaqués. Il faut que nous prenions vraiment cette responsabilité d'expliquer à nos enfants les choses d'après la Bible. Et ça, pour cela, il faut énergie, il faut temps, peut-être aussi de demander à quelqu'un de nous aider dans ces circonstances. Mais en général, je ne crois pas que c'est vraiment l'ordre pour nous tous de de chercher toute forme des attaques et des fausses doctrines qui existent, parce que ça n'encourage personne, en fait. Mais il y a ceux qui ont ce don et aussi cette capacité, et le Seigneur les utilise. C'est une distinction. Mais en même temps, verset 17, on voit que ceux qui bâtissaient la muraille et les autres, ils ont eu les deux instruments dans la gauche et la droite, les mains. Alors, il n'y a personne qui ne doit pas être vigilant contre les attaques. Même si ce n'est pas notre travail premier, peut-être, il faut quand même être vigilant et être capable de nous défendre. Et je peux dire, ce n'est pas vraiment un travail qui fait la joie, la défense. Mais elle est nécessaire, et particulièrement dans notre temps aujourd'hui. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus encourageant pour nous-mêmes et pour d'autres peut-être aussi de bâtir, de faire le positif. Mais il y a un temps qui est le temps de Néhémie et qui est notre temps aussi, où il faut en même temps être vigilant pour se défendre. Et il est beau aussi de voir ici à la fin de verset 16 que vraiment chaque groupe, pour ainsi dire, de ce peuple de Dieu était inclus. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Alors, aussi ceux qui gouvernent. On a ce mot dans 1 Corinthiens 12, ceux qui ont un service, une responsabilité de gouvernement, ils s'identifient avec les autres. Ils ne disent pas « laisse les autres faire ». Non, ils s'identifient, ils sont derrière, ils aident. Ils surveillent si on veut aussi, mais ils sont derrière la maison pour rester avec eux et de ne pas ne fuir pas. Alors tous ensemble sont inclus. Et encore un mot sur cette trompette. On a dans l'Ancien Testament deux instruments différents, en fait. Nombre 10 que nous avons entendu. Il y a aussi ce chauffard qui est utilisé, le mot ici, que José a utilisé quand il a fait ce combat contre Jéricho. Et on retrouve cela dans le livre des Juges, avec Gideon par exemple et d'autres. Vraiment un instrument qui est utilisé pour le combat. Et nous avons besoin, ceux qui utilisent ces trompettes qui sonnent, ces trompettes pour nous faire sentir, pour nous faire clair, c'est maintenant vraiment à se combattre, à défendre. Et il est besoin d'avoir ceux, je prends 1 Corinthiens 14, qui sonnent la trompette clairement. 1 Corinthiens 14, verset 8. Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Dans le contexte de 1 Corinthiens 14, c'est clair, c'est avec les langues. Pour nous, est-ce qu'il y a encore ceux qui disent clairement les dangers et aussi les aides? Nous avons vu, c'est le Seigneur, c'est la parole. C'est la relation avec lui, c'est aussi nos frères et sœurs qui sont à notre côté pour nous aider. Mais est-ce qu'il y a ces frères, si c'est un service public, qui sonnent la trompette clairement pour qu'on voit clairement le danger et aussi ce que la parole répond à ces dangers. Ça n'aide pas d'avoir une trompette où on ne sait pas. Est-ce que c'est quel ton? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment pour combattre? Il faut avoir ceux qui sont doués, qui ont la capacité de vraiment expliquer les dangers et ce que la parole donne comme réponse pour être vraiment armés pour cette défense nécessaire. Comme j'ai dit avant, il n'y a pas de combat ici, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons très clair que nous avons un combat et qu'il y a pas seulement les dangers, mais ces attaques, il faut réagir. Et on peut vraiment remercier Dieu que lui donne encore, et s'il donne encore ceux qui nous aident dans ces circonstances, de nous mettre en alarme, pour nous mettre prêts à agir avec eux contre ces attaques qui sont toujours dangereuses pour notre vie personnelle, familiale et aussi en assemblée.
J'ajoute simplement une petite remarque concernant le verset 18. Nous avons, avant de lire, « Et celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi », nous lisons, « Et ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée sainte sur leur rein. » L'épée, nous savons bien, dans le sens du Nouveau Testament, la parole de Dieu, ce qu'elle dit, ce qu'elle nous appelle. Et puis les reins, nous savons bien ce que c'est. C'est l'organe qui purifie, on peut dire, je crois, purifie. Voilà ce qui est nécessaire pour le travail. Ils ont bâti l'épée sur leurs reins. À côté, encore un état que nous trouvons à côté encore de la vérité que nous trouvons dans la trompette qui sonne et qui est aussi une image de la parole de Dieu.
L'illustration de ce que Manuel nous disait juste, nous sommes à la maison, les enfants rentrent de l'école. Qui est en général là pour les accueillir? C'est la maman. Ils arrivent avec tout ce qui vient de l'école. Et il y a des choses à déballer. Il faut être armé pour recevoir et aider ces enfants dans tout ce qu'ils ont à déballer à chaud. Il y a là à la fois un combat et quelque chose à construire. Et puis après, le soir, peut-être qu'il y a des choses dont il faut reparler. On va ouvrir la parole. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Le Père va expliquer, construire, bâtir sur ce que dit la parole. Mais il y a des sujets où aussi bien le Père que la Mère n'ont peut-être pas de réponse. Alors je pense, en janvier, à la réunion d'études à Bâle, le soir, un frère nous a fait un exposé sur la théorie du genre. Il a étudié ce sujet avec le regard du croyant, du chrétien, qu'est-ce que c'est dans la lumière de Dieu, et il nous a exposé ça. Il nous a communiqué tout un ensemble de choses que chacun de nous, ça nous aurait demandé du temps, d'énergie, et pas forcément avec les compétences, pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière cette chose, cette attaque de Satan. Là, on a quelqu'un qui a été amené à un service particulier pour donner les armes, pour donner les éléments pour chacun dans ce contact personnel à la maison avec les enfants. On retrouve à la fois les choses, si je peux dire, une activité spécialisée et puis une activité commune à tous. Il y a tous du combat et du bâtir, et il y a des domaines où il y a, pour bâtir, il faut un architecte. Alors bien sûr, notre architecte, c'est pas dit comme un sage architecte, mais au fond, le vrai architecte, c'est le Seigneur. Et puis d'un autre côté, le combat, des choses où n'importe qui ne peut pas aller combattre n'importe comment. Juste comme illustration pour quelque chose de concret pour chacun de nous.
J'aimerais juste souligner quelques mots. entre le verset 18, le verset 18. Ceux qui bâtissaient, chacun leur épée et ils bâtissaient. Puis au verset 19, nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Puis au verset 20, au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là rassemblez-vous et notre Dieu combattra contre nous. Verset 18, chacun avait son épée et il bâtissait. Il y a une responsabilité personnelle pour chacun de nous en tant que croyants. Et c'est la première des choses, faire face à notre responsabilité personnelle à l'égard du Seigneur, dans le service et pour l'assemblée, pour être prêt au combat et pour accomplir le service. La deuxième chose, nous sommes épars sur la muraille. La muraille était longue, elle encerclait toute la ville, les travailleurs étaient peu nombreux, sommes dispersés. C'était une bonne chose qu'ils soient là, chacun à son poste, chacun à sa place, on l'a dit, mais de ce fait, ils étaient dispersés, ils étaient éloignés, plus exactement, éloignés les uns des autres. Et le danger est que nous soyons concentrés sur notre service personnel, sur notre responsabilité personnelle, et que, d'une manière ou d'une autre, nous oublions l'aspect collectif. Alors, vous entendrez, là où vous entendrez le son de la trompette. Il nous faut être attentifs. La trompette peut sonner, si on n'écoute pas et si on est concentré sur son travail, et qu'on ne pense qu'à son travail, est-ce qu'on l'entendra ? Entendre, donc être attentif. Alors là, rassemblez-vous. C'est l'importance du rassemblement chrétien. Mais est-ce que ce rassemblement, c'est pour être plus fort que l'ennemi ? Est-ce que le principe de Dieu, c'est l'union fait la force ? Ce n'est pas parce qu'ils sont rassemblés qu'ils vont être victorieux. Notre Dieu combattra pour nous. Alors pensons-y, et pensons-y en particulier avec une des réunions qui sont les plus importantes pour la vie de l'Assemblée, pour, j'allais presque dire, pour la survie de l'Assemblée. Cette réunion qui est si souvent, pour toutes sortes de raisons, parce que l'ennemi s'y oppose, il met des obstacles, une réunion où nous déplorons souvent d'être peu nombreux, la réunion de prière. Nous avons notre service, nous avons nos responsabilités, mais le Seigneur nous appelle aussi à être là, réunis autour de lui, à nous rassembler autour de lui. Cet appel de la trompette, nous l'entendons, j'allais dire, chaque fois que nous ouvrons la parole. Nous voyons bien dans toute la parole l'importance de la prière collective, de la prière de l'assemblée, l'importance de la prière là où nous sommes appelés, là où vous entendrez le son de la trompette, là où le Seigneur nous appelle à lui. Et alors, eh bien, soyons là, ou plaçons nos besoins devant lui. Il s'agit là essentiellement que le peuple soit réuni devant le Seigneur, pour nous, autour du Seigneur, en assemblée. Et c'est lui qui répondra. Dieu, notre Dieu, combattra pour nous. Alors, vraiment, si nous pouvions y penser, avoir vraiment dans nos cœurs l'importance des réunions de prière. Alors, quelquefois, on dit oui, mais c'est long, les prières sont longues, c'est un peu toujours les mêmes choses. Il en sera d'autant plus ainsi que nous ne viendrons pas avec un cœur préparé. Et plus notre cœur sera préparé pour la réunion de prière, plus le cœur de chacun sera préparé pour la réunion de prière, plus la réunion sera certainement vivante.
Dans le cas ici, il me semble que quand sonnait de la trompette, c'était, comme il vient d'être expliqué, ils étaient épars sur la muraille et il y avait la personne qui sonnait de la trompette voyait le danger et il fallait donc momentanément cesser le travail de bâtir pour se rassembler et pour se placer sous la protection de Dieu qui allait combattre pour eux. Et cet aspect de cesser momentanément l'édification en vue du combat, il me semble qu'on la voit dans l'épître de Jude et avec ce que Jude nous dit au début de son épître. Il dit ceci, Jude verset 3, « Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut. » Voilà quelqu'un qui se proposait d'édifier, de bâtir, qui s'appliquait à cette tâche. Pas quelqu'un de querelleur du tout, quelqu'un qui était exercé pour l'édification. Quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, eh bien, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. C'est comme si il posait un moment sa truelle, on pourrait dire, pour se rassembler au son de la trompette et pour se placer sous la protection de Dieu parce qu'il y avait la nécessité de combattre. Il me semble que c'est un exemple qui montre ce que cela peut vouloir dire. Et une petite remarque encore sur le verset par rapport à leur travail. On a parlé des 52 jours et au verset 21... Et nous faisions l'ouvrage et la moitié d'entre eux tenaient les pics depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. En France, on travaille 35 heures par semaine et là, ils devaient en faire bien plus. Depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Depuis le début du jour jusqu'à la tombée de la nuit, ils étaient impliqué. Quel zèle!
À la suite de ce qui vient d'être dit, nous voyons déjà, nous avons au verset 9, et nous établîmes une garde contre eux jour et nuit. Et dans la suite du verset 21, verset 22, que chacun avec son serviteur passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit une garde et que de jour il fasse le travail. Il y a donc une vigilance de chaque instant. Alors, on voit ici, ils ne combattent pas. Il est parlé d'armes, chacun, ils ont des armes, ils ne combattent pas. Mais ils doivent être vigilants. Il y a la prière pour demander la protection du Seigneur. Il y a la prière pour demander que le Seigneur nous garde des ennemis. Et puis la prière quand l'ennemi attaque. C'est deux choses différentes. Donc il faut toujours prier, d'abord dans un esprit que Dieu nous garde, et puis alors il y a quand c'est l'attaque, à ce moment-là, la prière est d'autant plus importante. Mais il faut, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une veille de chaque instant. Et nous le savons bien, il suffit qu'un moment où nous faiblissons un peu, à ce moment-là l'ennemi il le sait très bien, et c'est alors qu'il attaque.
On pourrait peut-être penser qu'il y a une contradiction entre ce que nous avons au verset 14, où il nous est dit « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères. » Remarquez que c'est les frères en premier lieu. Et puis ce que nous lisons maintenant, au verset 20, « Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là, rassemblez-vous vers nous, notre Dieu combattra pour nous. » Dans l'un des versets, il est dit « combattez », dans l'autre, il est dit « c'est Dieu qui combat pour nous. » Pensez à ce passage de Romains 13, où nous lisons au verset 12. Romains 13, verset 12. « La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » En fait, la question qui peut se poser par rapport à ce que dit le verset 14, « Combattez pour vos frères », la question c'est comment nous combattons. Et nous voyons que il s'agit de combattre avec les armes de la lumière. Et les armes de la lumière, nous ne les connaissons que si nous nous tenons près de notre Dieu qui combat pour nous. Ce n'est donc pas une chose ou l'autre, c'est nous avons à combattre. Nous ne pouvons pas simplement dire Dieu combattra pour nous, mais nous avons à combattre avec les armes de la lumière, parce que c'est là la manière pour Dieu de combattre. Et nous le voyons bien dans la prise de Jéricho. Ils avaient bien à faire pendant plusieurs jours, sous la direction de la parole de Dieu. Et finalement, c'est Dieu qui va faire écrouler les murailles. Les deux choses vont ensemble. Et ce n'est pas pour rien, sans doute, que dans ce passage de Romains 13, nous entendons parler des œuvres des ténèbres, nous entendons parler du sommeil, combien on peut dire, on peut soit se tromper de combat, soit combattre, non pas dans la lumière de Dieu, mais avec pensée, combattre avec ce qui est des ténèbres. Conduisez-vous honnêtement, comme de jour. Que le Seigneur nous donne non seulement d'être vigilants, mais quand il faut combattre, de combattre, mais nous ne pouvons le faire que en nous tenant, on peut dire, près de celui qui sonne de la trompette, qui était à côté de moi. Celui qui sonnait de la trompette, c'est la parole de Dieu que l'on entend. Elle procède de celui qui est la lumière, pour lequel il vaut la peine de défendre.
Verset 21, début, « Ainsi nous faisions l'ouvrage. » Fin du verset 22, « Ils fassent le travail. » Et on voit qu'ils avaient à la fois, on peut dire, la truelle et à la fois l'épée. Il y avait les deux. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir un service particulier, mais aussi avoir les deux côtés. Et j'aimerais juste présenter ce qui nous est dit en 2 Timothée 4, à l'exemple de l'apôtre Paul, qui a œuvré constamment toute sa vie. Quel exemple est là pour nous? Il peut dire en 2 Timothée 4, alors qu'il encourageait Timothée à travailler, à convaincre, à insister, il lui dit au verset 5 à la fin, « Mets-toi, alors sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. » Et puis, cette expression « Accomplis pleinement ton service. » Peut-être que Timothée était encouragé par l'apôtre à accomplir son service, mais « Accomplis pleinement, entièrement ton service. » Mais il le dit à chacun de nous aujourd'hui, ce soir, à tous nos jeunes, « Accomplis entièrement, pleinement ton service. » Sans une partie seulement, mais accomplis pleinement ton service. L'apôtre Paul, il avait combattu le bon combat. Il le dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Quel exemple remarquable. Et il peut dire au verset 17 de 2 Timothée 4, le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Oui, l'apôtre Paul aussi avait besoin d'être fortifié. Mais le Seigneur s'est tenu près de lui, il l'a accompagné. Et puis, juste encore une expression, dans le premier épître de Pierre, on l'a eu tout à l'heure, dans les différents services qui sont donnés, il est dit « Chacun de vous a reçu ». Et il est dit en 1 Pierre 4, juste cela, verset 7 d'abord, « Soyez sobres et veillés pour prier ». On arrive à la fin, s'est approchée. Nous sommes aujourd'hui à la fin d'une période, la période de l'Église, et bien veillez, priez. Et puis, verset 10, chacun de vous a reçu quelque don de grâce. Est-ce que nous sommes de ces bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu ? Nous avons à être des dispensateurs de cette grâce de Dieu. Et puis alors, si quelqu'un sert, verset 11, qui sert comme par la force que Dieu fournit, c'est lui qui donne toutes choses pour que le service soit accompli à sa gloire, pour le bien. Et puis, on termine par « afin ». Le but, c'est quoi ? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire. Quelle magnifique fin de ce verset, n'est-ce pas ? Le but, c'est que, afin que Dieu, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Que ce soit le désir de chacun de nos cœurs d'accomplir le service, de l'accomplir pleinement, entièrement, pour que Dieu soit glorifié.
Juste sur le dernier verset, 23, il est beau de voir que Néhémie n'a pas dirigé, mais il était un exemple. On voit lui avec les autres qui étaient autour de lui. Et ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes hommes, ni les hommes de la garde qui me suivaient, nous notâmes nos vêtements. Chacun avait son arme à sa droite. Lui était un exemple pour les autres. Il n'a pas dit une chose et fait une autre. Mais comme l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle. Et Paul était un modèle. Il a pu dire, suis-moi comme moi je suis Christ le Seigneur. C'est une responsabilité, peut-être particulièrement pour nous qui ont pas prêcher aujourd'hui, est-ce que nous sommes ceux qui parlent ou ceux qui font ? Est-ce que nous sommes ceux qui sont vraiment dans nos familles, dans nos rassemblements locaux ? Et plus que cela, est-ce que nous sommes des modèles qui sont vraiment dévoués en persévérance dans ce service ? Néhémie l'a fait. Et par cela, Dieu l'a pu utiliser pour le bien de ce peuple.
En terminant, je voudrais juste lire l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, qui comme peut-être est un résumé de ce qu'on a entendu cet après-midi. Hébreux 10, versets 24 et début du 25. Prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Cantique 228.
Thank you. 96, strophes 2 et 3. Strophes 2 et 3. Deux cent seize, dernière strophe.